Welcome to the Voice of America in French.
Bienvenue. La Voix de l'Amérique, service francophone vers l'Afrique.
Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30 PU et tous les soirs à 18h30 PU.
Et sur Internet à www.lavoixdelamérique.com.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. Merci de votre fidélité à nos programmes. Avec vous, Morgane Guiriec, pour un tour d'horizon de l'actualité. Au Burkina Faso, la purge au sein du pouvoir continue. Séné Mohamed Topane, l'ancien directeur de cabinet du président déchu Blaise Compaoré, a été démis de ses fonctions. La mesure a été décrétée par le président de la transition, Michel Kafando. En Côte d'Ivoire, Raphaël Dogbo, un ancien ministre proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, a été incarcéré et inculpé pour complicité de meurtre et participation à une bande armée. C'est ce qu'indique son avocat cité par l'AFP. Les faits remontent à la crise post-électorale de 2010-2011. Côte d'Ivoire toujours, trouble à Odienné dans le nord-ouest du pays. La préfecture de police, le commissariat et la gendarmerie ont été saccagés hier. C'est ce qu'ont rapporté des habitants à l'agence France-Presse. Ces incidents auraient été provoqués par la mort d'un jeune homme dans les locaux de la police. Le calme serait toutefois revenu aujourd'hui dans cette ville frontalière de la Guinée. Au Mali, plusieurs dizaines de soldats tchadiens de la force de l'ONU au Mali sont de retour dans leur base d'Aguéloc, dans le nord-est du pays. C'est ce qu'annonce l'AFP. Ces casques bleus avaient abandonné leur base cette semaine pour réclamer le paiement d'arriérés de soldes. Un soldat joint par l'AFP affirme que les salaires et les primes ont finalement été payés. Ouverture du 15e sommet de la francophonie au Sénégal. Une trentaine de dirigeants réunis à Dakar doivent désigner le successeur du Sénégalais Abdou Diouf, qui a dirigé l'Organisation internationale de la francophonie pendant plus d'une décennie. 5 candidats sont en lice, dont 4 Africains et une Canadienne d'origine haïtienne. Le vainqueur doit être désigné demain, mais le choix s'annonce d'autant plus difficile que Blaise Compaoré, l'ex-président burkinabé, déchu le mois dernier, avait les faveurs de la France et du chef de la francophonie pour lui succéder. Le président français François Hollande a d'ailleurs profité de ce sommet pour mettre en garde les dirigeants qui voudraient se maintenir au pouvoir à tout prix. François Hollande a aussi appelé les dirigeants africains à s'unir contre la barbarie au lendemain du double attentat suicide qui a fait plus de 120 morts dans le nord du Nigeria. Et à ce sujet, justement, l'émir de Kano jure de ne jamais se laisser impressionner. Il s'est ainsi exprimé aujourd'hui de sa mosquée, théâtre de l'attaque attribuée à Boko Haram, fustigeant l'incapacité de l'armée à défendre les civils face aux insurgés. Il affirme que l'attaque était planifiée depuis au moins 2 mois. De son côté, le président nigérian Goodluck Jonathan promet de remuer ciel et terre pour capturer les responsables de l'attentat. Fusillade à proximité des camps de réfugiés de Dadaab dans l'est du Kenya. Un policier a été tué par balle et un autre grièvement blessé lors de cette attaque attribuée aux islamistes somaliens Shebab. Et puis, premier résultat de l'élection présidentielle en Namibie, comme prévu, c'est le parti au pouvoir qui a l'avantage. En Afghanistan, les talibans ont attaqué un complexe pour les étrangers à Kaboul. Des combats ont ensuite opposé un commando d'élite et de la police aux assaillants pendant au moins 3 heures. Des bruits d'explosion ont été entendus et des tireurs ont pris position à l'intérieur du bâtiment, mais sont encerclés par les forces de sécurité, affirme un porte-parole de la police. Le président palestinien va proposer une résolution au Conseil de sécurité pour la reconnaissance d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale.
Washington, la voix de l'Amérique, tous les soirs, à partir de 18h30, temps universel. Et les matins du lundi au vendredi à partir de 5h30 TU.
c'est parti pour Carrefour, votre rendez-vous hebdomadaire avec les sciences et la santé sur VOA Afrique. Jacques Aristide avec vous, en lieu et place de Camille Gros-Didier. Un coup d'œil sur le fil conducteur. Des chercheurs ont expérimenté en Guinée un test en un quart d'heure contre le virus Ebola au moment où les premiers résultats d'un vaccin se montrent prometteurs. Également à venir, l'ONU-SIDA appelle à la mise en œuvre de tous les moyens nécessaires pour mettre fin au VIH-SIDA à l'horizon 2030. Pour l'ONG Médecins Sans Frontières, il est urgent de repenser la façon dont les malades du SIDA sont soignés à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'épidémie.
La réalité sur le terrain, celle des cliniciens, c'est qu'on est dans des cliniques qui sont déjà débordées. Pour vous donner un exemple, une petite clinique de soins de santé primaire dans le township de Kayucha, il y en a une qui a 8000 patients.
Autre titre, la propagation rapide d'une nouvelle souche de la grippe aviaire en Europe menace le secteur avicole. L'Afrique appelée à être vigilante. Coup de projecteur aussi sur l'enseignement des sciences mathématiques en Afrique, filière considérée comme pouvant aider à relever les défis africains.
À l'Institut panafricain des sciences mathématiques, l'objectif, c'est de former des jeunes Africains capables de résoudre des problèmes, de les former à entreprendre au lieu d'attendre que le gouvernement et d'autres personnes leur donnent du boulot.
Et en fin de magazine, la retraite dorée de l'éléphante Sambo après 30 ans de dur labeur au Cambodge. Le point sur l'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. Des chercheurs envisagent d'expérimenter en Guinée, un des pays les plus touchés par la maladie, des tests de détection du virus qui ne prendraient qu'un quart d'heure. Le projet est financé par le gouvernement britannique et la fondation caritative Wellcome Trust. Michel Joseph.
Le prototype mis au point par l'Institut Pasteur de Dakar est 6 fois plus rapide que les tests en cours en ce moment. Selon le Dr Val Snewin de Wellcome Trust, il s'agit d'un test fiable de 15 minutes qui pourrait confirmer des cas d'Ebola. Pour elle, ce serait un outil efficace pour gérer l'épidémie, permettant l'identification, l'isolement et le traitement des patients dès que possible. Le Dr Snewin a précisé que les tests étaient conçus pour être utilisés dans des dispensaires ruraux où l'électricité et les systèmes de réfrigération font souvent défaut. Les essais seront menés dans les semaines à venir par les chercheurs de l'Institut Pasteur de Dakar dans un centre de traitement d'Ebola de Conakry, la capitale guinéenne. La secrétaire britannique au développement international, Justin Guining, est d'avis que les nouveaux tests pourront quadrupler le nombre de tests auxquels on peut procéder chaque jour et faciliter la lutte contre la propagation d'Ebola. Les présents tests basés sur la détection génétique du virus requièrent en moyenne un peu plus de 2 heures et doivent être pratiqués exclusivement en laboratoire. Pendant ce temps, les premiers résultats d'un essai mené chez l'humain d'un vaccin contre le virus ont été publiés dans le New England Journal of Medicine. Des résultats prometteurs selon le Dr Anthony Fauci, directeur de l'Institut américain des allergies et des maladies infectieuses, NIAID. Le test n'a déclenché aucun effet indésirable grave, les patients semblant développer une réponse immunitaire d'après les chercheurs. Il s'agit d'un vaccin développé par GlaxoSmithKline et qui a été administré à 20 volontaires sains. 2 des volontaires ont déclaré une fièvre transitoire au lendemain de l'injection, mais la majorité, ayant reçu une dose importante, a produit des anticorps contre la maladie. Le Dr Fauci a toutefois précisé que seuls les essais plus larges menés en Afrique de l'Ouest permettraient de savoir si le vaccin marche et s'il est réellement sûr. Ebola a fait près de 5 700 morts, dont la plupart en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, le Libéria reste le pays le plus affecté. 7 168 cas y ont été recensés et 3 016 décès enregistrés, la maladie progressant 4 fois moins vite que lors du pic de l'épidémie. Concernant la Guinée, d'où est partie l'épidémie, l'OMS évoque une stabilisation du nombre de malades, même si 2143 personnes ont été touchées par le virus, dont 1260 cas mortels. En Sierra Leone, 6599 personnes ont été infectées, dont 1398 décès. Et au Mali, les autorités ont confirmé 8 cas d'Ebola.
Cap sur le Bénin, où 170 personnes ont été placées en observation suite à l'identification de 14 cas suspects de fièvre de Lassa, un virus voisin d'Ebola. Chez Rubin Dorsil.
8 personnes parmi les 170 mises en observation sont mortes de la maladie, selon un texte publié jeudi par l'OMS et les autorités béninoises. Les 170 contacts ont été identifiés dans les communes de Tanguieta et de Kobli et font l'objet d'un suivi quotidien, ajoute le texte. La ministre béninoise de la Santé publique, Dorothea Koko Kindegazar, avait annoncé la semaine dernière la mort de 5 employés de l'hôpital de Tanguieta, dont 2 étaient les cas confirmés de virus de Lassa. La fièvre de Lassa sévit de manière endémique au Nigeria, en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Elle est asymptomatique dans 80% des cas, mais pour les autres, elle peut provoquer des atteintes sévères, notamment hémorragiques ou neurologiques. La transmission se fait par les excrétions des rongeurs ou par contact direct avec du sang, des urines, des selles ou d'autres liquides biologiques d'une personne atteinte. Entre 100 000 à 300 000 personnes sont infectées par cette fièvre chaque année en Afrique de l'Ouest et 5 000 en meurent selon le Centre américain de prévention et de contrôle des maladies.
Une nouvelle souche de la grippe aviaire, connue sous le nom H5N8, a été détectée en Europe. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, affirme que le virus constitue une grave menace pour les élevages de volailles sur le continent européen. Il représente toutefois un risque très faible pour l'homme, contrairement au H5N1 qui a tué quelques 400 personnes depuis 2003, principalement en Asie. Et pour parer à toute éventualité, des pays africains ont été mis en état d'alerte. Lionel Gaïma.
Ian Douglas de la FAO affirme que les chercheurs suivent de près la propagation du H5N8. Nous gardons l'œil sur cette nouvelle souche depuis quelque temps. Elle a émergé en Asie, plus précisément en Chine, au Japon et en Corée du Sud. La maladie affecte les volailles dans ces pays et a aussi été décelée chez les oiseaux sauvages. Elle ressemble à la grippe aviaire qui se propageait à travers le monde dans les années 2000. Mais le virus actuel est différent. Ian Douglas dirige le Centre de gestion des crises santé animale de la FAO. Il indique qu'en Asie, la maladie a conduit à l'abattage de volailles dans les élevages affectés. Des mesures de mise en quarantaine ont aussi été prises et des restrictions temporaires sur le commerce imposées. H5N8 a également été découvert chez les oiseaux migrateurs et la sauvagine tels que les canards et oies en Asie. Le virus s'est étendu au moins dans 3 pays européens. Au cours de ces 3 dernières semaines, des élevages de volailles en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni ont apporté des cas de contamination. Chacun de ces pays a immédiatement pris les mesures nécessaires pour empêcher la propagation. La surveillance d'oiseaux sauvages a aussi permis de limiter les dégâts. Cette souche de la grippe aviaire représente une menace significative sur le secteur avicole, en particulier dans les pays pauvres situés le long des routes migratoires des oiseaux sauvages, en bordure de la mer Noire et de l'Atlantique Est. Pour Ian Douglas, les pays hors d'Europe ont aussi intérêt à être vigilants, d'autant que le virus H5N1 des années 2000 avait atteint le continent africain. Effectivement, le H5N1 s'est répandu jusqu'à certains pays d'Afrique de l'Ouest. C'est vrai que la réponse avait alors été très rapide et la situation était sous contrôle. Et nous n'avons pas vu la réapparition du virus H5N1 en Afrique de l'Ouest depuis la propagation initiale il y a environ 6 ans. Mais il y a toutes les raisons de craindre que le présent virus se propage comme le précédent. Le H5N8 pose-t-il un danger pour les humains? Et encore une fois, Ian Douglas, directeur du Centre de gestion des crises santé animale de la FAO. À ce stade limité de la recherche concernant ce virus, il n'existe aucune preuve de contamination humaine. Nous pensons pour l'heure que le virus n'est pas de nature à pouvoir envahir les cellules humaines. Cependant, nous sommes conscients que d'autres virus de la grippe ont pu faire ce chemin et provoquer des cas graves. Nous suivons l'avis de l'OMS pour le moment. L'OMS affirme qu'aucun cas humain n'a été associé à la nouvelle souche de l'influenza aviaire. La FAO et l'Organisation mondiale de la santé animale exhortent les gouvernements du monde et les éleveurs de volailles en particulier à renforcer les mesures de protection pour faire face à ce virus de la grippe aviaire.
Vous êtes à l'écoute de Carrefour, le magazine des sciences et de la santé sur VOA Afrique. Jacques Aristide, toujours avec vous. Merci de nous suivre. Direction Madagascar, où sévit en ce moment une épidémie de peste. Elle pourrait se propager rapidement dans tout le pays, a averti l'Organisation mondiale de la santé. Selon le ministère malgache de la santé, la maladie a tué 47 personnes et jusqu'à 138 cas présumés ont été enregistrés. Nous retrouvons Chérubin Dorsil.
La grande île est encore loin du scénario apocalyptique de la peste qui a décimé 25 millions de personnes en Europe au Moyen-Âge. Mais l'OMS redoute une augmentation du nombre des malades. Madagascar enregistre chaque année des cas de peste. Toutefois, l'inquiétude tient au fait que les chiffres semblent cette fois plus élevés que les années passées, a souligné le porte-parole de l'OMS, Christian Leinmeier.
Cases have been reported in 16 districts of 7 regions.
Des cas ont été signalés dans 16 districts, dans 7 régions. À Antananarive, la capitale, deux cas ont été identifiés, dont un décès. Il y a un risque de propagation rapide de la maladie en raison de la forte densité de population dans cette ville et de la faiblesse du système de soins de santé. C'est ce qu'explique Christian Lehmann. Autre facteur compliquant les choses, le niveau élevé de résistance à la deltamethrine, insecticide utilisé pour contrôler les puces à Madagascar, a ajouté le porte-parole. Cette année, le premier cas de peste a été identifié à Madagascar le 31 août, mais les autorités malgaches n'ont notifié l'OMS que le 4 novembre. Des équipements de protection individuelle, des insecticides, des matériels de pulvérisation et des antibiotiques sont mis à la disposition des habitants dans les districts touchés, a indiqué le porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé. En outre, un expert de l'organisation a été dépêché pour travailler avec les autorités malgaches et déterminer ce qu'il reste à faire pour contrôler la maladie, a précisé Christian Leinmeier. La peste est une maladie très grave chez les personnes avec un taux de létalité de 30 à 60% si elle n'est pas traitée. Elle est causée par la bactérie Yersinia pestis, habituellement présente chez les petits animaux et leurs puces. Les personnes infectées développent généralement des symptômes grippaux après une période d'incubation de 3 à 7 jours. Si les bactéries atteignent les poumons, le patient développe une pneumonie et peut transmettre la maladie par les gouttelettes infectées propagées par la toux. La peste bubonique peut être traitée avec succès par les antibiotiques s'ils sont pris dès le début de la maladie. Selon l'OMS, la peste pulmonaire est une des maladies infectieuses les plus mortelles. Elle peut tuer les patients dans les 24 heures après l'infection. Jusqu'à présent, l'OMS dit que 2% des cas signalés sont de la forme pneumonique.
La journée mondiale de lutte contre le sida, observée ce lundi 1er décembre, a pour thème cette année « Objectif zéro ». Zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimination, zéro décès dû au sida. L'an dernier, 1,5 million de personnes à travers la planète sont mortes de maladies liées au sida. Environ 35 millions de personnes dans le monde vivaient avec le VIH en 2013. Le programme des Nations Unies, ONU-SIDA, avertit que le nombre de nouvelles infections pourrait atteindre des niveaux encore plus élevés si la riposte n'est pas accélérée dans les 5 prochaines années. Il s'agit donc de renforcer rapidement les interventions pour mettre fin à l'épidémie d'ici à 2030. Pour l'ONG Médecins Sans Frontières, les réalités sont dévastatrices sur le terrain, notamment en Afrique subsaharienne, où 71% des séropositifs vivent aujourd'hui. Camille Gros-Didier s'est entretenue avec le docteur Éric Goumard, spécialiste du VIH-SIDA à MSF.
Clairement, le message de l'ONU-SIDA que nous supportons, bien sûr, c'est « scaling up ». Il faut passer à la vitesse supérieure, et ce sont des années clés, disent-ils, pour faire la différence, et donc supprimer cette épidémie ou au contraire la voir rebondir. Leur message clairement, c'est qu'il faut plus que doubler, il faut tripler en fait le nombre de gens que l'on mettra sous traitement d'ici 2020. La réalité sur le terrain, celle des cliniciens comme nous à Médecins Sans Frontières, c'est qu'on est dans des cliniques qui sont déjà débordées. Vous savez, près d'ici, pour vous donner un exemple, une petite clinique de soins de santé primaire dans le township de Kayucha, il y en a une qui a 8000 patients sous ARV en traitement. Donc 8000 patients vivant avec le sida en traitement. Pour une petite clinique, ils ne peuvent pas faire que du sida. Ils doivent faire aussi les urgences, les accouchements, soigner les différentes maladies communes. Et donc, tout ça avec un staff restreint. Donc, la volonté de notre communiqué, c'est de dire on pourrait éventuellement passer à une vitesse supérieure, mais il faut alors changer complètement nos modalités pour délivrer les soins.
Vous parlez de la réalité sur le terrain en Afrique du Sud. Est-ce que cette réalité est similaire ailleurs en Afrique subsaharienne ?
Je suis venu récemment, j'étais en République centrafricaine, et j'étais au Congo aussi, donc je connais bien ces différents pays. Bien sûr, il y a une différence. On ne peut pas complètement adapter l'Afrique australe, qui a donc des prévalences très élevées, et donc partout, Zimbabwe, Malawi, c'est la même image, avec des files énormes de gens qui attendent dans la file d'attente tous les mois au centre de santé pour avoir leur traitement. Dans les pays à basse prévalence, à relativement basse prévalence, comme l'Afrique de l'Ouest, comme la République démocratique du Congo, il y a moins de files, mais il y a aussi beaucoup moins de prestataires. Pas toutes les cliniques sont équipées, formées, pas tout le staff pour faire ce genre de service. Et donc, on retrouve en général la même congestion. Oui.
MSF préconise ce qu'elle appelle les modèles communautaires. Qu'entendez-vous par là ?
Ce qu'on entend par les modèles communautaires, en fait, c'est très simple. C'est de donner aux patients vivant avec le VIH une plus grande responsabilité dans la délivrance de leurs soins et dans l'observance de leur traitement. Qu'est-ce que l'on veut dire par là ? C'est que dans nos modèles de santé, je parle ici du service public en général, c'est vrai dans l'ensemble de l'Afrique, on confond le besoin de faire une consultation clinique avec la délivrance des médicaments. Pourquoi ? Parce que on n'a pas à disposition un système pour délivrer les médicaments à la maison. Pour vous donner un exemple, un patient qui est séropositif dans le service public en Angleterre, eh bien, ils ou elles recevront leurs médicaments à la maison tous les mois, envoyés par la poste rapide, alors que une fois que le traitement a été bien pris, après quelques mois, les malades en général sont stabilisés, donc leur besoin de consultation clinique est beaucoup moindre. Ici, on mélange les deux. Donc, on fait revenir les patients tous les mois pour les réapprovisionner en médicaments. Ils font la file, ils attendent toute la journée. Potentiellement, ils vont s'infecter avec d'autres patients. Et donc, nous, ce que nous disons, c'est que il faut trouver des systèmes où, en fait, les patients n'ont plus besoin de venir aussi régulièrement à la clinique et ils vont s'organiser entre eux avec un appui éventuellement de la clinique qui est responsable de cette aire de santé. Ils vont s'organiser entre eux pour redistribuer les médicaments tous les mois. Et seuls ceux qui ont un besoin clinique viendront donc pour une consultation.
Le docteur Éric Goumard, spécialiste du VIH-SIDA à MSF, était joint en Afrique du Sud. Le prochain Einstein viendra de l'Afrique et c'est mathématiquement prouvé. L'affirmation peut étonner, mais Thierry Zomaoun en est convaincu. Il est le président de l'Institut africain des mathématiques, ou AIMS, fondé en 2003 et implanté en Afrique du Sud, au Sénégal, au Ghana, au Cameroun et en Tanzanie. Il était de passage à Washington pour promouvoir la Next Einstein Initiative, un projet de construction de 15 centres à travers le continent africain d'ici à 2023. Il s'agit aussi d'identifier les meilleurs jeunes scientifiques africains qui seront à l'honneur lors du Forum scientifique mondial prévu à Dakar en 2015. Le patron de AIMS se dit persuadé que les sciences mathématiques aideront à relever les défis de l'Afrique. Thierry Zomaoun.
À l'Institut panafricain des sciences mathématiques, l'objectif, c'est de former des jeunes Africains capables de résoudre des problèmes, de les former à entreprendre. Au lieu d'attendre que le gouvernement et d'autres personnes leur donnent du boulot. Les problèmes et les conflits politiques sont en train d'être résorbés par la gouvernance. Et la gouvernance, du point de vue sociologique, a montré ses limites. Il faut y injecter des données mathématiques et des outils mathématiques pour améliorer la gouvernance de nos États. La gouvernance, c'est aussi la prise de décision. Il y a ce qu'on appelle la prise de décision mathématique qui répondent à des critères de quantification exacts.
L'enseignement des mathématiques est-il accessible à toutes les filles, tous les garçons en Afrique ?
Si je vous dis oui, ce serait trahir la réalité. Ce n'est pas encore accessible. Vous avez encore des pays où le nombre de filles inscrites en sciences mathématiques est complètement infime. Sans oublier que sur le continent, il y a une réalité. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons d'être de l'Institut panafricain. Aujourd'hui, dans beaucoup de nos pays, 80% de jeunes bacheliers vont s'inscrire dans les humanités. Sociologie, histoire, géographie, philosophie. Et seulement 20% vont dans les filières scientifiques. Je crois que c'est une tendance qu'on constate aussi dans les pays développés. Eh bien, le monde ne se portera pas mieux si on ne renverse pas la tendance, du moins équilibrer la tendance. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, vous prenez un institut panafricain comme AIMS, nous sommes en train de nous battre pour que la parité garçons et filles dans les filières scientifiques soit les mêmes. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. 30% de notre population étudiantine est féminine. Et nous voulons améliorer ce quota. Mais pour améliorer ce quota, il faut commencer à la base par les outils de sensibilisation dès le primaire.
Thierry Zomaoun, président de l'Institut africain des mathématiques, interrogé dans nos studios à Washington. Et maintenant, l'histoire d'une retraite bien méritée. Sambo, la seule éléphante encore en activité à Phnom Penh, au Cambodge, coulera dès le mois prochain des jours oisifs dans la jungle après 30 ans de bons et loyaux services à transporter des touristes. Morgane Guerriec.
Sambo est l'éléphante la plus célèbre au Cambodge. Âgée de 54 ans, elle a passé sa vie à transporter des vacanciers sur son large dos depuis 1980, devenant ainsi une institution au temple Wat Phnom de la capitale cambodgienne. Son propriétaire, Sin Sorn, confie que Sambo est pour lui comme une sœur cadette.
Mon père l'avait capturé dans la montagne Oral, dans la province de Kampong Speu, alors que j'étais tout petit. Nous sommes comme frères et sœurs.
Une infection au pied, mais aussi le mécontentement des autorités locales qui l'ont accusé de provoquer des embouteillages, l'a obligé à interrompre ses activités en 2012. Pour lui rendre un ultime hommage, Sambo a été béni récemment par une foule de moines bouddhistes dans la capitale cambodgienne, une cérémonie organisée avant son départ pour la jungle afin de jouir d'une retraite dorée. Grâce à des dons venus du monde entier et de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, Sambo sera transporté au début du mois prochain dans la province de Mondulkiri, au nord-est du Cambodge, où elle retrouvera ses environnements naturels, d'où elle a été arrachée à l'âge de 8 ans. Elle vivra librement en compagnie de 9 autres congénères dans un parc géré par une organisation pour la préservation des éléphants appelée ELI. Sean Callahan de USAID.
Je pense qu'il était temps qu'elle prenne sa retraite. Notre appui n'est qu'un simple soutien au peuple cambodgien et à la faune cambodgienne. Il s'agit de préserver la diversité sauvage des forêts.
Il existe au Cambodge environ 78 éléphants domestiqués et 400 sauvages selon l'ONG ELI. L'éléphant d'Asie est classé parmi les espèces menacées figurant sur la liste de l'Union internationale pour la conservation de la nature.
Calling on the whole world to see men, women and children of greatness gone down to soil.
Ainsi s'achève Carrefour. Vous retrouverez Camille Gros-Didier la semaine prochaine. Michel Joseph a assuré la mise en onde. Jacques Aristide était au micro. Mille merci de votre fidélité, chers amis fidèles de la VOA. Je vous quitte avec un extrait d'une nouvelle chanson consacrée à la lutte contre Ebola. Elle s'intitule « We Shall Overcome Ebola », interprétée par une dizaine d'artistes américains et africains de la région de Washington DC, dont notre collègue Ralil Gay. Elle est chantée en plusieurs langues, anglais, français, créole, Dioula, patois, Sierra Leone et Wolof. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Take care.